Ces dernières semaines, j'ai pu écouter, entendre des histoires de voleurs, des histoires aussi de veille à la fin d'une vie, ou encore j'ai pu entendre poser de grandes questions autour de la foi. Alors malgré ce jour, ce dimanche de la fête de la Chandeleur, présentation de Jésus à Siméon au temple, j'ai choisi de partager ce texte pas facile de l'évangile de Matthieu. Dans cet évangile, Jésus est en plein discours à ses disciples sur la fin des temps, appuyé par des paraboles. Et là, il leur parle de veille. Dans toute la Bible, vous le savez, le fond et la forme des textes sont toujours étroitement liés. La Bible récite l'amour dans un poème aux Corinthiens. Elle crie sa détresse dans les vers déchirants des psaumes. Elle dessine le royaume dans les paraboles. Elle raconte l'histoire du peuple hébreu dans des sagas patriarcales. Alors ici, quand Jésus interpelle ses disciples pour adopter la bonne attitude, celle de la veille, il leur adresse un discours musclé. Oui, vous l'avez entendu, ces quelques versets de Matthieu 24 sont troublants de bien des manières. Un texte donc puissant et décapant qui nous tient en éveil. Quoi de mieux ? Pour nous qui, en ce moment, au cœur de l'hiver, sommes en manque de vitamines, fatigués de ces semaines d'obscurité, fatigués des virus à combattre, réels ou supposés. Oui, nous avons tendance, en cette période de l'année, à baisser les bras et à fléchir du genou. Quoi de mieux alors pour ce matin qu'un tel texte pour nous réveiller et nous apprendre à veiller. Qu'est-ce que la veille ? Dans le dictionnaire, je lis « état du corps dans lequel les sens sont en action ». Aujourd'hui, nous utilisons souvent ce mot de veille pour nos appareils électroniques et connectés, que l'on place en mode veille en pensant les mettre au repos. Mais nous nous trompons, car vous le savez, ces appareils en veille consomment toujours et il paraît même que certains d'entre eux consomment plus que lorsqu'ils sont allumés. Bref, Jésus demande à ses disciples d'alors et à nous aujourd'hui de rester en alerte et même en action. Jésus démarre avec une reprise de l'histoire de Noé. En effet, à cette époque, avant le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient ou donnaient leurs filles en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se rendirent compte de rien jusqu'au moment où le déluge vint et les emporta tous. Ainsi en sera-t-il quand viendra le Fils de l'homme. Les êtres humains menaient leur vie, mais sans Dieu. Et dans Genèse 6, nous lisons « Le Seigneur vit que les humains étaient de plus en plus malfaisants dans le monde et que les penchants de leur cœur les portaient de façon constante et radicale vers le mal. Le Seigneur en fut attristé et regretta d'avoir fait l'être humain sur la terre. » Jésus prêche ici à ses disciples cet épisode du déluge pour emmener son auditoire vers son interprétation et sa proposition centrale. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans les cieux, ni même le Fils, seul le Père sait. Comme l'humanité, ou au temps de Noé, a été surprise de l'arrivée soudaine de Dieu dans leur vie, vous aussi, dit Jésus, vous aussi serez surpris de sa venue aujourd'hui. Cela nous interroge. Nous qui aimons planifier pour nous assurer, pour nous rassurer, pour rassurer nos vies bien remplies de beaucoup, mais souvent en manque de sens. Nous planifions notre carrière, nous planifions notre retraite, nous planifions notre épargne, nos journées, nos fêtes de famille, nous organisons notre planning des cultes. Et là, à contresens de l'organisation à toute épreuve, Jésus dit que le Fils de l'homme viendra de façon inattendue. Jésus contre ainsi la volonté de toutes celles et ceux qui voudraient établir un agenda de sa venue. Et il y en a eu au cours du temps, de telles prévisions. Je me suis amusée à regarder sur Internet quelques exemples. Le premier évêque français l'annonçait en 365. Le pape Sylvestre II l'annonçait pour l'an 1000. Thomas Münster, protestant anabaptiste, l'annonçait en 1525. Le cardinal Dailly en 1789. Le méthodiste Wesley en 1836. Bien sûr, il y a eu le 1er janvier 2000. Et puis, il paraît qu'en 2060, la fin du monde et le retour du Christ est annoncé selon les calculs savants d'Isaac Newton. Jésus signifie à celles et ceux qui scrutent les signes et se persuadent qu'ils les perçoivent que leurs prédictions sont ridicules. Seul le Père sait, rappelle-t-il encore. Et en ce sens, certains discours écologiques du moment, ces discours qui proposent des prédictions de la fin des temps, n'aident pas à l'amélioration de la vie sur Terre. Certains pensent que la peur peut nous pousser à l'engagement. Pourtant, il est juste et bon de lutter en restant des veilleurs, de gagner toute parcelle de vie contre les coins sombres. Jésus nous appelle à veiller, à agir pour et dans le monde. Et à l'opposé, l'anti-veille et le pessimisme et le catastrophisme. Alors la venue du Fils sera inattendue et en même temps sonne dans ce texte un jugement immédiat. Nous arrivons à ces deux paraboles très dures de Jésus. Deux hommes seront au champ, l'un sera emmené et l'autre laissé. Deux femmes écraseront du grain, l'une sera emmenée et l'autre laissée. Voici deux images bien terrorisantes qui nous coupent toute envie d'aller au champ ou d'écraser du grain. Le choix semble arbitraire. En tout cas, le jugement sera immédiat et souverain. Aucun moyen ne sera laissé aux hommes et aux femmes de s'y préparer. Derrière ce message effrayant se cache la fondamentale liberté de la parole. Si le jugement dépendait de nous, de nos actions, de nos dires ou de nos silences, nous passerions notre temps à nous juger et à juger les autres, nous regardant du coin de l'œil, en essayant de faire mieux pour être choisis. Notons ici qu'il n'est pas clair de savoir s'il faut être emmené ou laissé. D'après ce qui précède avec Noé, on nous dit que l'inondation les a emportés. Alors on pourrait déduire que pour la femme et l'homme dans le champ, ceux qui sont emportés sont ceux qui vont mourir. Pourtant, si c'est le Christ lui-même qui vient chercher l'homme ou la femme, ça serait pour lui donner la vie. Je pense que cette ambiguïté est tout à fait volontaire. Seul le Père sait. Et cela ne doit pas nous mener à l'immobilisme ou à la crainte, mais à la liberté d'action. Nous n'agissons pas alors pour être pris ou pas pris, mais simplement parce que nous avons reçu une parole de vie, parce que nous avons vécu une rencontre. et que nous avons soif, comme le titre de ce fameux livre d'Amélie Nothomb qui fait beaucoup parler de lui, nous avons soif de vie donnée et reçue. Et ici, nous rejoignons directement la fameuse prédestination de Jean Calvin, qui là aussi a été discutée à n'en plus finir, et souvent mal comprise. Jean Calvin voulait tout simplement, à cette époque, lutter contre ce fameux salut par les œuvres, en disant que, de toute façon, seul Dieu sait et seul Dieu sauve. L'un est pris, l'autre est laissé. Ces images, malgré tout ce que l'on peut en dire autour et y réfléchir, nous atteignent car elles reflètent tellement notre réalité d'homme et de femme dans notre monde. La souffrance, la cruauté du mal, qui va faire que cette mère de famille est prise par la maladie et une autre laissée. Qui va faire que ce petit garçon de 3 ans est pris et que son copain est laissé. C'est là aussi cette réalité que Jésus nous montre sans filtre. Cela nous révolte, cela nous anéantit. Mais ces paroles de Jésus sont pétries de notre réalité. Et pour affronter notre réalité, mieux vaut être debout et en éveil, comme le maître ou la maîtresse de maison, en alerte pour ne pas manquer l'arrivée du... Qui attend-on à la fin de ce texte ? Non, on ne l'appelle pas comme ça. Le voleur. Là encore, une image complètement incroyable. Dans la parabole finale, le Fils de l'homme est un voleur. Comprenez bien ceci, dit Jésus. Si le maître de la maison savait à quel moment de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne le laisserait pas pénétrer dans la maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Je crois que nous pourrions imaginer toutes les images pour Jésus, mais sûrement pas celle du voleur. Celle que nous offre ici Matthieu. Pourquoi ? Est-ce que le Fils de l'homme n'aurait pas d'autre choix que d'entrer par effraction dans nos vies, tellement nous avons mis de verrous à notre existence ? La peur, la paresse, nos certitudes, tout ce qui nous rend hermétiques au Père. Nous faudrait-il alors un voleur de haut vol pour pénétrer nos existences et enfin nous révéler à nous-mêmes. Je répète pourtant ici, très souvent, que le Dieu de Jésus-Christ n'est pas un dictateur, qu'il nous laisse libres de répondre ou non à son appel sans nous forcer. Oui, mais ici, selon Matthieu, il semble bien qu'au retour du Christ, ils doivent entrer en nous avec force si nous ne l'avions pas déjà fait. Jésus est alors le voleur de nos illusions de pouvoir nous en sortir par nous-mêmes. Oui, dans ce discours, il nous secoue et il nous malmène. Il nous demande de rester éveillés. Et nous le sommes maintenant, n'est-ce pas ? Alors, que notre veille tienne pour cet hiver et plus encore, pour accepter d'accueillir dans la confiance celui qui vient bouleverser nos vies et nos êtres. Ainsi, nous laisserons naître en nous une part du royaume. Amen.